Bonjour à tous, je suis Richard Zarzavadjian et je suis très heureux de vous recevoir sur ce premier podcast du Figaro Magazine consacré à une présentation et une définition de la maladie de la schizophrénie. Pour en parler, nos deux invités, deux psychiatres avec nous. Martine, une première question.
Oui, professeur Jean-Pierre Ollier, d'abord, comment se définit la schizophrénie et qu'est-ce que veut dire schizophrénie ?
Schizophrénie veut dire séparation, coupure à l'intérieur de l'esprit, c'est-à-dire perte d'unité. D'où, comme manifestation essentielle, la perte de cohérence qui peut se manifester par de la bizarrerie, à minimum, et au maximum, par des idées complètement loufoques, délirantes, invraisemblables, et donc une incohérence du comportement et de la vie mentale.
Et combien de personnes souffrent de schizophrénie en France aujourd'hui ?
1% de la population générale est touchée par les symptômes de schizophrénie.
Ce qui fait à peu près 600 000 personnes.
Exactement.
Alors, plus en détail, que sait-on de l'origine de cette maladie ?
On ne connaît pas la cause des schizophrénies. On connaît des facteurs. Premièrement, des facteurs de vulnérabilités qui peuvent être génétiques ou qui peuvent être précocement acquis, notamment par des traumatismes, traumatismes au sens le plus physique du terme, précocement à la naissance, ou traumatismes psychiques, très précocement, dans les premières étapes de la vie. Et deuxièmement, on connaît des facteurs précipitants, c'est-à-dire des facteurs qui vont déclencher, entre 16 et 30 ans, les premiers symptômes de schizophrénie. Ces facteurs précipitants peuvent être la consommation de toxiques, ils peuvent être des facteurs de stress dans la vie, ils peuvent être des facteurs hormonaux, des facteurs affectifs.
Alors, c'est une maladie psychiatrique, donc ça concerne aussi le cerveau. Est-ce que aujourd'hui, grâce à l'imagerie, on peut voir beaucoup de choses, notamment des maladies cérébrales, Parkinson, Alzheimer? Est-ce qu'on peut voir des anomalies du cerveau grâce à l'imagerie?
Oui, l'imagerie fonctionnelle que permettent les méthodologies, les technologies modernes permet de voir que certaines zones cérébrales sont insuffisamment, anormalement inactives ou peu actives ou au contraire excessivement actives. En bref, il y a un dysfonctionnement des neurones et des réseaux de neurones entre eux, dysfonctionnement qui conditionne donc ces manifestations d'incohérence, de délire dans la vie mentale ou dans le comportement.
Oui, professeur Ollier, hors antenne, nous avons parlé des causes, enfin des origines possibles de la maladie, et vous avez évoqué le rôle de facteurs traumatiques lors de la naissance. Qu'en est-il exactement ? Et j'aimerais aussi que vous reveniez sur ce que vous disiez à propos des naissances en hiver, qui caractériseraient notamment un nombre important de personnes souffrant de schizophrénie.
Je pense que deux choses. Premièrement, on commence à connaître aujourd'hui donc des facteurs qui peuvent induire une vulnérabilité. Parmi ces facteurs, on suppose, mais on est encore au stade des hypothèses, qu'il y a des facteurs génétiques. On suppose qu'il y a des facteurs traumatiques, notamment des facteurs viraux. Et cette hypothèse est notamment, pas exclusivement, notamment basée sur un constat fait à plusieurs reprises d'une surreprésentation des naissances en hiver dans la population des sujets atteints de schizophrénie comparativement au reste de la population.
Ah, pardonnez-moi, professeur Ollier, c'est très intéressant, c'est nouveau,
c'est
on ne savait pas
nouveau.
Ça. Vous voulez dire que sur 100 personnes qui naissent en hiver, combien sont susceptibles de développer la maladie ?
Vous me proposez un calcul mental qui est au-delà de mes possibilités. Je suis en train de vous dire plutôt que lorsqu'on regarde le nombre, les dates de naissance des patients atteints de schizophrénie, ils sont plus souvent que ne le voudrait le hasard nés en période hivernale. Ce qui conduit à émettre l'hypothèse d'action de virus au moment très précoce du neurodéveloppement, virus qui sont susceptibles de perturber l'organisation des systèmes cellulaires qui vont conditionner la constitution du cerveau et de nos comportements.
Docteur David Gouriot, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de recherches faites autour de la schizophrénie et qui nous permettraient justement d'en savoir plus sur les causes ou les origines possibles de la maladie ?
La réponse est malheureusement non. C'est une pathologie, comme l'a dit le professeur Ollier, extrêmement fréquente, extrêmement courante, Un patient schizophrène sur 6 risque de se suicider au cours de sa vie. C'est une maladie du jeune adulte. Et d'ailleurs, l'OMS et la Banque mondiale ont établi que les troubles psychiatriques se classent au deuxième rang en termes de coût global généré par les différentes maladies, hein, cancer, troubles cardiovasculaires y compris. Et les budgets alloués à la recherche en psychiatrie, à la schizophrénie en particulier, sont absolument dérisoires. Ils le sont à l'étranger, ils le sont a fortiori encore plus en France. Et vraiment, là, c'est un message. Je crois qu'il y a absolument besoin de fonds supplémentaires pour la recherche. Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Monsieur Ollier sur, je trouve que c'est absolument passionnant, les facteurs très précoces qui peuvent intervenir au cours du développement embryonnaire, les facteurs viraux. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut rajouter, qui est l'impact potentiel des complications obstétricales. Je voudrais tempérer cette donnée par le fait que l'augmentation du risque est extrêmement modérée. On n'observe pas ça chez un sujet donné, mais à un niveau statistique sur de très très grandes populations. Donc ça ne constitue pas le fait d'avoir eu des problèmes, des complications obstétricales au moment de la naissance, ne prédit pas la schizophrénie, mais le risque est un peu plus augmenté et on pense que notamment les complications obstétricales qui auraient pu générer une hypoxie cérébrale, c'est-à-dire que l'oxygénation du cerveau du nouveau-né est moins bonne s'il y a accouchement très difficile, très long, etc., pourrait également jouer un rôle et notamment gêner quelque peu la mise en place de structures cérébrales très sensibles au moment du développement, comme l'hippocampe.
Donc on est bien d'accord, docteur Gourion, l'environnement est capital dans la genèse de cette maladie ?
L'environnement, mais plus que l'environnement, l'interaction de l'environnement avec le support génétique de vulnérabilité.
On est d'accord, donc c'est un cofacteur, c'est une des causes avec d'autres. Le professeur Ollier a parlé des toxiques. Le cannabis, est-ce que le cannabis, les gens qui fument du cannabis peuvent être susceptibles de développer ce type de maladie ? Quelle est la place du cannabis dans l'apparition de la maladie ?
C'est une question très complexe. On s'est longtemps demandé quel était le sens de la flèche. Est-ce que les patients schizophrènes consomment plus de cannabis que ne le voudrait que le reste de la population générale du fait de leur pathologie ou de leur sensibilité ou de leur vulnérabilité particulière ? Ou bien est-ce que le cannabis précipite chez des sujets préalablement vulnérables, déclenche un peu comme la goutte d'eau qui viendrait faire déborder le vase et précipite l'entrée vers la maladie schizophrénique ? Des études très récentes ont précisé que, notamment, l'utilisation et la consommation massive de cannabis précoce avant l'âge de 15 ans, il semble que le cerveau avant l'âge de 15 ans soit encore en pleine maturation, il aurait jusqu'à 20 ou 25 ans, mais que la consommation précoce de cannabis soit un facteur de risque réel de précipitation chez les sujets vulnérables.
On parlait de prédisposition génétique. Connaît-on les gènes qui pourraient être impliqués dans la maladie ? Professeur Ollier.
On ne connaît pas les gènes et probablement il n'y a pas un gène de la schizophrénie. On connaît des conditions génétiques qui sont associées plus fréquemment que ne le voudrait le hasard à des manifestations de type schizophrénique. Mais comme l'a dit Monsieur Gourion, ces éléments génétiques ne vont pouvoir faciliter ou devoir s'exprimer sous la forme d'une maladie qu'à la condition probablement de facteurs environnementaux.
Alors, vous vouliez rajouter quelque chose,
oui,
docteur Gourion ?
Oui, je voulais rajouter aussi les données concernant les études de jumeaux. Quand on compare le risque quand un jumeau monozygote, c'est-à-dire les deux jumeaux ont exactement le même patrimoine génétique, on parle de vrais jumeaux. Si l'un des deux est schizophrène, l'autre a un risque proche de 50% d'être également atteint par la maladie schizophrénique. Si ce sont de faux jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux qui n'ont pas le même patrimoine génétique, un peu comme un frère, comme deux frères, le risque pour le deuxième jumeau tombe à 10%. Ce qui montre à la fois que le support génétique joue un rôle majeur, mais qu'en même temps, à patrimoine génétique identique, l'autre vrai jumeau n'a que 50% de risque d'être schizophrène. C'est-à-dire aussi 50% de chance, si j'ose dire, de ne pas le devenir. Ce qui montre à la fois que le support génétique n'est pas une fatalité, et d'autre part, ce qui souligne l'importance des facteurs environnementaux.
On sait qu'il y a schizophrénie, mais des schizophrénies. Alors, quelles sont les différentes formes de schizophrénie, professeur Ollier ?
L'ensemble des schizophrénies associe, selon des modalités différentes à chaque fois, associe à la fois des manifestations que nous disons positives, c'est-à-dire des manifestations psychiques et comportementales qui n'existent pas chez un individu normal, qui sont en plus, en quelque sorte, hallucinations, délires, excitations. Deuxièmement, des symptômes que nous disons négatifs, c'est-à-dire des manifestations en déficit qui existent chez l'individu normal et qui manquent chez le patient schizophrène. Au maximum, c'est l'autisme, le retrait en soi, l'absence de communication avec l'environnement, et de manière moins caricaturale, c'est peut-être un émoussement des réactions affectives, une absence d'une sorte d'indifférence sur le plan émotionnel, une sorte de difficulté à se concentrer, à fonctionner sur le plan intellectuel. Et troisième série de symptômes, des symptômes de désorganisation, d'incohérence. Et donc, chaque cas est un mélange de ces trois séries de symptômes, symptômes positifs, négatifs et de désorganisation.
Alors justement, les symptômes négatifs ressemblent, en tout cas pour le commun des mortels, un peu à la dépression. Est-ce qu'on peut dire que la dépression peut masquer une schizophrénie?
Oui, absolument. La dépression peut être une manifestation, peut être un mode d'entrée à l'adolescence ou chez l'adulte jeune, un mode d'entrée dans un processus schizophrénique. Cependant, lorsqu'on regarde de plus près, les choses de plus près, il y a une différence fondamentale. La dépression est un état, nous disons, d'hyperthymie douloureuse, c'est-à-dire d'hyper-émotivité, d'exagération affective, émotionnelle, douloureuse. Alors que chez le patient atteint de schizophrénie, c'est au contraire une hypothymie, c'est-à-dire une indifférence. Et donc derrière éventuellement les idées noires, derrière éventuellement une certaine tristesse, en fait, en regardant de plus près, on touche du doigt la dimension déficitaire, négative sur le plan émotionnel, ce qui est à l'opposé du déprimé.
Quels sont les symptômes communs à toutes les schizophrénies et les manifestations particulières?
Les symptômes communs à toutes les schizophrénies sont ce que nous avons dit, symptômes positifs, négatifs et désorganisation. Ces symptômes peuvent apparaître progressivement, de manière insidieuse, disons-nous, c'est-à-dire que au bout de plusieurs mois, voire de 2 ou 3 ans, l'entourage s'aperçoit que le sujet n'a plus de relations, n'a plus d'amis, a inversé son rythme veille-sommeil, est devenu comme indifférent, qu'il n'arrive plus à travailler, à se concentrer. Et puis, il y a des formes de schizophrénie qui débutent de manière brutale. C'est le coup de tonnerre à partir d'un état soudain délirant hallucinatoire ou d'un état d'allure dépressive ou d'un état d'excitation. Et donc le sujet qui hier était tout à fait bien, tout d'un coup aujourd'hui donc, se trouve avec toujours ces trois séries de symptômes, positive, négative et désorganisation.
Et cela arrive toujours après ou au moment de l'adolescence et pendant un laps de temps donné qui est adolescence et adulte jeune.
Ce qui est tout à fait remarquable est que ces maladies débutent effectivement entre 16 et 30 ans, c'est-à-dire à la période où s'achève la maturation cérébrale et bien sûr, aussi au moment où commence à se réaliser la vie d'adulte et où le sujet commence à devoir manifester des capacités d'adaptation, où il a subi des transformations sur le plan physique, sur le plan hormonal, où il doit s'organiser sur le plan social. Donc c'est à cette période charnière, et c'est effectivement tout à fait remarquable. On ne devient pas schizophrène avant 16 ans, on ne devient pas schizophrène après 30 ans. C'est dans cette fenêtre de temps que débute la maladie.
Alors justement, cette maladie, comment évolue-t-elle à partir de cette période de la vie ?
Les schizophrénies évoluent sur un mode chronique. On dit chronique en psychiatrie à partir de 2 ans d'évolution. Donc c'est une maladie qui va durer toute la vie durant. Mais dans environ un tiers des cas, elle va se cicatriser en quelques années. C'est-à-dire qu'après 5 ou 7 ans, il n'y aura plus les manifestations aussi bruyantes qui avaient signalé le début de la maladie, ou encore le sujet aura trouvé des capacités pour s'adapter, pour mener une vie relationnelle à peu près satisfaisante, voire une vie sociale et professionnelle à peu près normale. Deuxième possibilité d'évolution, c'est la catastrophe. C'est que l'on voit de moins en moins grâce au progrès thérapeutique, la catastrophe, c'est-à-dire que les symptômes d'incohérence, de désorganisation, de bizarrerie, avec une incapacité à l'autonomie, sont de plus en plus manifestes. Et puis, Troisième hypothèse, eh bien, ce sont des périodes d'amendement et des périodes de poussée de la maladie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie qui se soigne, que c'est une maladie chronique et tout à fait sérieuse, mais que c'est aussi une maladie dont on peut cicatriser, c'est-à-dire qui peut ne pas empêcher l'accès à un certain niveau d'autonomie.
Le docteur David Gourion, peut-il y avoir des épisodes schizophrènes isolés sans suite?
On les appelle, dans la nosographie française, dans le jargon des psychiatres français, on les appelle bouffées délirantes aiguës. C'est ce que le professeur Ollier décrivait sous la forme d'un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est souvent une période extrêmement intense, délirante, hallucinatoire et qui peut finalement régresser assez spontanément. On dit en général 1 à 6 mois. Alors aujourd'hui, évidemment, avec l'avènement des thérapeutiques, on ne laisse pas ces jeunes personnes évoluer, mais il y a effectivement des formes comme ça, des buts très brutales et qui peuvent spontanément s'arrêter. Il est aussi intéressant de noter que bien souvent, quand on recherche précisément les choses, une prise de substance, en particulier une prise de cannabis, peut avoir déclenché ces formes-là. Dans ce cas-là, on parle de pharmacopsychose.
Très bien. Merci, messieurs, de ces explications vraiment passionnantes. On passe tout de suite au deuxième podcast consacré justement au traitement. À tout de suite sur les podcasts du Figaro Magazine.